Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G, 101.5 FM, il est 19h et vous écoutez l'Europe dans le micro. Aujourd'hui, la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire Europe Direct va vous faire découvrir les mobilités de Rose en Europe et à l'international. Bonjour Rose.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Rose, j'ai 21 ans, je suis originaire d'Angers et je viens de terminer ma licence en études internationales. Et cette année, je fais une année de césure et donc je suis volontaire en service civique à la Maison de l'Europe Angers-Maine-et-Loire.
Super, donc tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel pays tu es partie ?
Alors, pour mes études, je suis partie au Canada, plus précisément à Montréal. Ensuite, j'ai fait un échange universitaire à Barcelone, où j'ai terminé ma licence là-bas. Et cette année, avant de commencer mon service civique, j'ai fait un volontariat avec le Corps européen de solidarité, où je suis partie en Sardaigne, en Italie. Et aussi, j'avais fait il y a 2 ans le programme Discover EU, où j'ai pu partir en train en Italie, en Slovénie, en Hongrie, en Autriche et en République tchèque.
Donc, on va commencer par parler de ta mobilité au Canada. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quel cadre tu es partie là-bas ?
Donc, je suis partie dans le cadre des études. J'ai fait un baccalauréat études internationales. Donc, le baccalauréat, là-bas, c'est l'équivalent de la licence. Et donc, j'étais à l'Université de Montréal, qui est une université francophone. Mon programme était pluridisciplinaire. J'avais de la science politique, du droit international, de l'économie, de l'histoire et des cours de langue, anglais et espagnol.
Et est-ce que tu étais déjà partie à l'étranger ou c'était une première ?
C'était une grande première parce que j'étais déjà partie à l'étranger pour des vacances ou pour des courtes durées. Mais c'était la première fois que je partais m'installer pour vivre ailleurs. Et aussi, c'était la première fois que je quittais la vie chez mes parents. Donc c'était une grande première.
Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour échanger avec les Québécois ou les Espagnols d'ailleurs lors de ton séjour d'études à Barcelone, notamment à cause des différents accents de langue ?
Pour ce qui est de Montréal, donc c'est le Québec est francophone, donc tout le monde parle français, mais bien sûr ils ont leur accent, donc il y a quand même un temps d'adaptation. Il y a des différences de prononciation, de vocabulaire, d'expression, on n'utilise pas les mêmes expressions. Mais au fil du temps, on découvre et puis on se comprend. Une fois, par contre, je suis allée en campagne québécoise où là, l'accent était vraiment bien plus prononcé qu'en ville. Donc parfois, même si on parle la même langue, on ne se comprend pas. Après, Montréal, c'est très cosmopolite, donc il y a des gens de partout. Ce qui fait qu'il y avait aussi des Français. J'ai retrouvé pas mal de Français à l'université. Et c'est aussi une ville très bilingue, donc on peut aussi apprendre à essayer d'améliorer l'anglais en allant dans des endroits où ça parle que anglais. Pour ce qui est de Barcelone, je parlais un peu espagnol avant de partir, mais au final j'ai très peu travaillé mon espagnol là-bas parce que j'avais tous mes cours en anglais. Et aussi l'anglais c'était la langue de communication entre les étudiants en échange ou en Erasmus. Donc en fait, j'ai vraiment amélioré mon anglais, mais très peu mon espagnol, sauf pour les petites expressions du quotidien, pour aller faire ses courses ou aller dans certains commerces. Et aussi à Barcelone, bah, c'est en Catalogne, donc ils ont leur propre langue, surtout que certains Catalans ont une revendication indépendantiste. Donc pour certains, c'est très important de parler et promouvoir la langue. Et moi, mon université était catalane, même si j'avais mes cours en anglais. Donc toute l'administration et tout ça, c'était en catalan. Donc heureusement, j'avais rencontré une amie catalane qui m'aidait un petit peu parce que pour le coup, le catalan, c'est quand même différent et je ne l'ai pas vraiment appris là-bas.
Et donc, lors de ces différents échanges, est-ce que tu as pu travailler à côté de tes études ? Et si oui, dans quel domaine ?
J'ai travaillé quand j'étais à Montréal. J'ai travaillé pour plusieurs agences d'événementiel. Donc, je travaillais en tant que serveuse la plupart du temps. Ou au bar, au vestiaire, hôtesse. Et j'ai appris plein de choses, en fait, parce que je pouvais travailler à côté de mes études et surtout gérer mes horaires un peu à côté de mes études. Donc si, par exemple, pendant les périodes d'examen, je n'avais pas beaucoup de temps, je pouvais réduire les horaires. Je travaillais pour une grande variété d'événements, pour des mariages, pour des séminaires d'entreprise, pour des matchs de football... Donc c'était super chouette de découvrir tout ça et aussi parfois on travaillait en dehors de Montréal, donc c'était aussi une occasion de voir un petit peu les villages, enfin les petites villes autour de Montréal.
Et donc, à la suite de ces expériences professionnelles, est-ce que tu as constaté des différences entre le monde du travail étudiant là-bas et celui en France ?
Oui, au Québec, c'est très commun de travailler à côté de ses études. La majorité des étudiants travaillaient, en fait. Un semestre à temps plein à Montréal, c'était environ 15 heures de cours par semaine. Donc, même si à ça, il faut ajouter les heures à la bibliothèque, les lectures et tout ça, c'était quand même très faisable de cumuler un job à côté. Alors qu'en France, c'est vrai que j'ai remarqué que les étudiants travaillaient plutôt pendant l'été, hors période d'études. Donc voilà, ça c'est une différence que j'ai pu observer. Et aussi, au Québec, dans le monde professionnel, tout le monde se tutoie, même si on ne connaît pas la personne et qu'on vient de se rencontrer et que la personne, c'est notre boss, c'est pas grave, tout le monde se tutoie. Donc ça permet aussi un peu plus de légèreté, ce qui est sympa.
Et donc, pour revenir au côté études, est-ce que tu as observé peut-être des différences pédagogiques dans tes expériences donc à Montréal et en Espagne ?
À Montréal, j'ai pu faire l'expérience d'une université nord-américaine. Et en fait, le fonctionnement là-bas, c'est on choisit un peu nos cours comme dans un catalogue. Et en fait, j'avais ma première année où c'était une année de tronc commun, donc on avait déjà nos cours choisis. Mais les deuxième et troisième années, on pouvait choisir nos cours et organiser notre programme un peu comme on voulait. Ce qui était super chouette parce qu'on pouvait accéder à plein de sujets différents et aussi s'organiser un peu notre temps comme on le veut. Et aussi, une chose que j'ai observée à Montréal, c'est la relation prof-étudiant qui est très horizontale. On peut vraiment contacter facilement les professeurs. Ils sont très, très disponibles pour nous aider, pour répondre à nos questions. Aussi, à Montréal, la notation est différente. L'évaluation fonctionne par lettres, donc avec A, B, C, A-, A+. Donc ça aussi, il faut un peu comprendre le système au début, mais après, on s'y fait. Et aussi, à Montréal, j'ai observé que généralement, les étudiants ont facilement des notes élevées comparées à la fac en France. Par contre, une contrepartie, c'est qu'on n'a pas de rattrapage. Donc, soit on réussit notre cours, soit si on ne le réussit pas, on doit le repasser au prochain semestre. Pour ce qui est de Barcelone, j'ai un peu retrouvé le système plus européen classique. J'ai vraiment fait plus de travaux de groupe à Barcelone. Peut-être que c'était mon université qui fonctionnait plus comme ça aussi. Le suivi prof-étudiant était un peu moins fort qu'à Montréal. On était quand même plus en autonomie vis-à-vis des profs.
Donc, tu es partie étudier au Québec, c'était le début de ta vie étudiante. Mais comment ça t'est venu, cette idée de partir en autonomie dans un autre pays ? Et pourquoi le Québec ?
En fait, je venais de terminer mon bac en France. Et après le lycée, je voulais absolument partir à l'étranger. Mais en même temps, je voulais aussi continuer les études. Et j'avais entendu parler par des amis à mes parents d'une fille qui était partie, comme moi, après le lycée, étudier à l'Université de Montréal dans le même programme. Et je l'ai contactée, j'ai beaucoup échangé avec elle et ça m'a tout de suite donné envie de postuler. Et après, quand j'ai été acceptée, je me suis dit, j'y vais. Je ne me suis pas trop posé de questions, en fait. Je pense que je ne me rendais pas trop compte de ce que ça impliquait, de la distance et tout ça. Mais c'est vrai que j'avais tellement cette envie de partir à l'étranger que je me suis dit, c'était le moment. Et Montréal, déjà, c'était une ville hyper cosmopolite qui m'attirait. Il y a une grande diversité de nationalités, c'est une ville bilingue, donc si on veut parler anglais, c'est possible. Et aussi une ville où il y a vraiment une mentalité d'ouverture d'esprit, de tolérance qui m'attire un peu. Et aussi le Québec, c'était une option qui était réalisable parce qu'il y a un accord en fait, entre le Québec et la France dans le cadre de la promotion de la francophonie qui fait que la mobilité étudiante est plus facile. Donc, il y a des procédures administratives qui sont simplifiées. Les frais de scolarité aussi sont réduits. Bon, après, le visa étudiant, ça reste un petit peu un casse-tête pour l'obtenir. Je sais qu'aujourd'hui, les politiques d'immigration sont en train de se resserrer au Canada. Donc, peut-être que maintenant, c'est encore plus difficile. Mais si on est patient, normalement, ça devrait le faire.
Oui, donc tu conseillerais à des étudiants qui souhaitent, des futurs étudiants qui souhaitent partir à l'international, de bien se renseigner sur les conditions de visa, parce que ce n'est pas forcément une démarche très simple, quoi.
Oui, c'est ça. Après, c'est très bien expliqué sur le site, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Québec, donc c'est le niveau provincial. Donc il y a le gouvernement du Québec auquel il faut demander un visa. Et après, il y a un autre niveau, c'est le niveau fédéral, où là, c'est au niveau du Canada. Et donc, il y a des procédures d'immigration aux deux niveaux. Voilà. Mais c'est assez bien expliqué sur leur site. Maintenant, je sais qu'ils réduisent un peu leur visa parce qu'en ce moment, c'est un peu en train de changer. Mais c'est toujours possible, vu qu'on est des étudiants francophones, ils veulent aussi promouvoir cette mobilité-là.
Et donc, en arrivant au Québec, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris particulièrement ?
Oui, ce qui m'a surpris, c'est le pourboire. C'est vraiment presque obligatoire de laisser un pourboire dans les restos, les bars. Et c'est une norme culturelle qui est très ancrée. C'est très mal vu de ne pas le faire. Donc, en France, on n'a vraiment pas l'habitude de faire ça. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours prévoir le fait qu'on va payer un peu plus parce qu'il faudra laisser un pourboire. Et même si on paye par carte, le TPE nous propose direct le pourboire. Donc, il n'y a pas d'excuse. Aussi, ce qui m'avait étonnée, quand on va faire des courses dans un magasin, le prix affiché dans les rayons, c'est toujours le prix sans les taxes. Il faut prévoir, quand on va payer à la caisse, que le prix sera toujours un petit peu plus élevé parce que y a la taxe à inclure. Aussi, à Montréal, j'ai été surprise en arrivant par le civisme un peu des gens dans la ville. Par exemple, personne ne traverse au feu rouge. Enfin, il n'y a que les Français qui font ça et du coup, on se reconnaît dans les quartiers. Et aussi, les gens font la queue pour attendre le bus. Et alors ça, pour la petite anecdote, la première fois que j'ai pris le bus à Montréal, j'avais pas vu que les gens faisaient la queue et je suis rentrée tête baissée dans le bus. Et en fait, je comprenais pas parce que tout le monde me regardait hyper bizarrement dans le bus en mode « Mais pourquoi elle double tout le monde ?» Et après, j'ai compris qu'en fait, il faut faire la queue. Et donc, premier arrivé, premier assis.
Et du coup, il y a peut-être aussi des choses qui t'ont surpris à Barcelone ?
Oui, à Barcelone, quand je suis arrivée, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de chiens de compagnie. Presque tous les Espagnols en ont un, de toute taille, même si on est en plein centre-ville, il y en a plein. Et aussi, c'est une ville qui est très, très dense. Et ça, au début, il faut un peu s'habituer, parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Surtout l'été, c'est hyper touristique. Donc ça peut être un peu étouffant au début, mais après, on s'habitue. Et aussi, l'heure des repas, les Espagnols mangent super tard. Donc, on mange à 15h le midi, 22-23h le soir. Ça se reflète dans l'ouverture des commerces aussi. Et c'est impressionnant de voir comment l'heure de la sieste, après le repas du midi, elle est très, très sacrée. Il y a certains magasins qui ferment de midi à 17h. Alors qu'en France, c'est vraiment la période où c'est ouvert. Et après, les magasins réouvrent de 17 à 20h. Donc, c'est complètement des horaires différents.
Est-ce que tu as remarqué aussi des différences entre la vie étudiante au Québec, à Barcelone, par rapport à la France ?
Oui, à Montréal, j'ai un peu pu expérimenter les associations étudiantes. Bon, après, je sais qu'il y en a aussi en France. Mais c'est vrai qu'à Montréal, c'était un bon moyen de rencontrer du monde. Et si on ne se met pas trop dans les assos, ça peut être un peu compliqué après de rencontrer d'autres mondes pendant l'année, quoi. Quand je suis arrivée, notre association de programme, elle faisait une semaine d'accueil. Donc pareil, c'était vraiment le meilleur moyen pour se faire des amis dès le début. Et après, j'ai été membre de l'association de ski et de snow de mon université. Et ça, c'était super chouette. On était une équipe de 8 étudiants et on organisait des sorties à la journée pour aller au ski. Et on essayait de rendre ça accessible à un prix étudiant. Donc on a pu faire quelques journées au ski et expérimenter la neige québécoise. Donc pour ça, on manquait pas de neige. Et voilà.
Donc oui, j'imagine qu'à Barcelone, tu t'es moins impliquée dans les associations de ski, mais il y avait peut-être d'autres associations intéressantes sur place.
Oui, ce qui est super en Europe, c'est qu'on a le réseau des associations ISN. Donc c'est Erasmus Student Network. Et alors, Barcelone, il y a vraiment de quoi faire. Il y a 4 assos, je crois. Et elles sont hyper actives. Il y a tous les jours des activités, des soirées, des événements pour rencontrer plein d'autres étudiants Erasmus. Et c'est vrai que si on le voulait, on ne dormirait jamais, quoi. Du lundi au dimanche, il y avait toujours quelque chose à faire. Et aussi, l'association ISN organisait des voyages. Donc, il y avait Ibiza, il y avait le Maroc. Moi, j'ai pu faire le Maroc. Et c'est trop bien parce que, pareil, c'est à des prix étudiants, donc c'est plus accessible. Et on part avec d'autres étudiants Erasmus, donc il y a une ambiance qui est super.
Et donc, par rapport à ces quand même deux expériences extrêmement différentes, est-ce que tu as eu des difficultés à t'adapter au mode de vie que tu as pu voir ?
À Montréal, c'était la première fois que je partais. Donc, et aussi, c'était la première fois que je partais pour aussi longtemps. Donc j'ai un peu eu cette phase, on parle du cycle de l'expatriation, où au début, j'étais un peu dans l'idéalisation de tout. J'étais émerveillée par les grands buildings, la ville, les écureuils dans les parcs, voilà. Mais après, j'ai eu un peu quand même, les 4 premiers mois, une petite période un peu plus compliquée où j'avais pas mal de stress par rapport à l'université parce que la marche universitaire était un peu grande. Et il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait laisser absolument un pourboire. On est un peu dans un rejet des normes un peu culturelles et tout. Puis après, il y a l'acclimatation où petit à petit, on se fait nos repères dans la ville. On découvre nos bars préférés, nos parcs préférés. Puis aussi, on crée plus de liens avec les personnes avec lesquelles on est. On crée plus de souvenirs parce que c'est vrai que, pour le cas des étudiants français comme moi que j'ai retrouvés là-bas, comme notre famille est loin, on faisait tout avec les étudiants qui étaient des étudiants internationaux. Donc, on se crée vite des souvenirs ensemble. Et puis après, on se stabilise. La dernière phase, c'est la stabilisation où là, vraiment, on se sent bien, on se sent un peu plus chez soi. Et le quotidien devient un peu plus naturel, quoi.
Est-ce que le retour en France était difficile ? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent du Québec ou de l'Espagne ?
Quand je suis revenue de Montréal, ce qui m'a un peu manqué, c'est la diversité culturelle, le mélange de plein de nationalités et tout ça. C'est quelque chose que j'ai un peu moins retrouvé quand je suis revenue en France. Et aussi la mentalité, un peu l'ouverture d'esprit, l'ambiance un peu plus chill, on se tutoie. On se demande toujours comment ça va. Enfin, quand on va faire ses courses, le caissier te dit « Salut, comment ça va ?» Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on verrait en France, c'est vrai. Aussi la poutine, en vrai, c'est quand même un plat hyper réconfortant. Donc, même s'il y a un resto de poutine qui a ouvert à Angers, donc je pourrais y aller. Et quand je suis revenue de Barcelone, ce qui me manque un peu de là-bas, c'est à quel point les Espagnols fêtent leurs traditions. Parce que c'est vrai que quand j'étais à Barcelone, en 5 mois, j'ai pu faire les carnavals en février. Il y a aussi la Saint-Jordi en avril. C'est un peu comme une fête de Saint-Valentin. Pareil, dans la ville, les Barcelonais le fêtent vraiment. Et aussi la San Juan, où c'est une fête où il y a plein de feux d'artifice partout dans la ville. Donc en fait, c'est hyper animé tout le temps. Et c'est vrai que ça me manque un peu de là-bas. Puis pour ce qui est des plats espagnols, la tortillas de patatas et les patatas bravas, ça vraiment, ça me manque énormément.
Et donc, à l'inverse, pendant tes mobilités, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué particulièrement de France ?
Quand j'étais à Montréal, vraiment, ce qui m'a manqué, c'était le fromage, parce que ça coûtait tellement cher d'acheter du bon fromage là-bas que j'ai dû faire avec le cheddar. Et aussi, ce qui m'a manqué, ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en allant en Amérique du Nord, c'est en fait l'ambiance des villes européennes. Et je ne m'en rendais pas compte avant de partir, mais c'est vrai qu'il y a, une dynamique dans les centres-villes, dans les rues piétonnes, un peu plus de proximité entre les gens. On fait tout à pied, il y a un peu plus de contexte historique, de monuments historiques. Et ça, quand j'étais à Montréal, c'est des villes qui sont hyper différentes, qui sont déjà plus récentes et hyper étalées, tout est fait pour la voiture. Donc ça m'a un peu manqué quand j'étais là-bas.
Et pour les aspects un peu pratico-pratiques, est-ce que tu as eu des difficultés pour trouver un logement là-bas ? Est-ce que tu as remarqué des différences par rapport à l'accès au logement en France ?
Alors pour le logement à Montréal, c'est assez facile de trouver. En tout cas, il n'y a pas forcément besoin de passer par des agences. Moi, j'ai trouvé à chaque fois par moi-même. Et ils utilisent beaucoup Facebook, le marketplace, c'est vraiment, ou Kijiji, c'est l'équivalent du Bon Coin. Et aussi, une différence là-bas, c'est assez courant de changer de logement. Moi, en 2 ans et demi, j'ai changé 3 fois d'appartement. Parce que c'est vrai que la première année, j'ai emménagé dans un logement qui était hyper excentré. Et en fait, je ne me rendais pas compte avant de partir que j'étais à 50 minutes de transport de la fac. Donc, c'est des choses qu'on se rend compte une fois sur place, en fait. Et puis aussi, au fil du temps, on découvre plus nos quartiers préférés. Donc, moi, la deuxième année, j'ai emménagé dans un quartier qui était vraiment à 3 minutes de la fac. Donc, là, c'était vraiment plus pratique. En troisième année, j'ai rechangé d'appartement pour aller en colocation. Parce que là, en fait, pareil, on peut reprendre des chambres de potes qui repartent. Donc, après, c'est du bouche à oreille. Et en vrai, c'est comme ça qu'on trouve les meilleurs apparts aussi. Et donc, là, c'était ma première expérience de coloc. C'était super chouette. J'ai adoré l'expérience. Et pareil, c'est très commun de faire de la coloc à Montréal, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Et aussi, une dernière différence à Montréal, c'est la sous-location. C'est vraiment légal et très commun de le faire là-bas, alors qu'en France, c'est un peu plus compliqué. Pour ce qui est du logement à Barcelone, le marché du logement là-bas est très, très cher. C'est devenu tellement touristique qu'habiter seul, c'est même pas une possibilité. Donc, je suis direct allée en colocation. Et donc là, j'ai dû passer par une agence parce qu'il y a tellement de monde que, en fait, pour pas avoir une arnaque, on est sûr qu'au moins, par une agence, on a notre chambre. Et pareil, j'ai adoré l'expérience de coloc à Barcelone. C'était un peu le cliché de l'auberge espagnole. Il y avait des Allemands, des Français, des Espagnols. On était 6 et j'ai pu un peu voir les différences, les différentes colocs qu'on peut vivre, parce qu'à Montréal, ma coloc était très organisée. On avait notre planning ménage, notre planning pour les poubelles, pour le tree count et tout. Alors qu'à Barcelone, c'était vraiment très au feeling. Donc, j'ai vraiment aimé les deux. Enfin, je pense que ça dépend de chacun, mais c'est sûr que la coloc, ça nécessite quand même un minimum d'adaptation. Mais tant qu'on communique dans la coloc, ça devrait bien se passer.
Et avec le recul, si tu avais pu faire des choses différemment, en termes d'organisation notamment, qu'est-ce que tu aurais fait ?
Pour Montréal, peut-être un peu plus me renseigner sur les quartiers, quels sont les quartiers qui sont cool pour les étudiants. Parce que c'est vrai que c'est tellement grand que si on est excentré, on peut se retrouver dans des quartiers qui sont un peu pas très dynamiques. Et puis l'hiver est long aussi, donc c'est important d'être dans un endroit dans lequel on se sent bien. Et puis Barcelone, je dirais de bien s'organiser vis-à-vis des cours. Parce que en fait, en séjour d'échange comme ça, ça passe super vite et on n'a qu'une envie, c'est de sortir tout le temps parce que bah, on n'est là que 5 mois, donc on a envie de profiter. Donc quand même, je dirais un minimum s'organiser. Mais après, c'est sûr qu'il faut aussi profiter de la vie là-bas. Donc.
Et donc, est-ce que tu avais des a priori avant d'aller au Québec ou à Barcelone sur les Québécois et les Espagnols ?
Au Québec, j'avais pas trop d'a priori. Je savais qu'ils avaient leur accent. Je me disais peut-être qu'on n'allait pas se comprendre, mais en fait, si, on se comprend sans problème. Surtout qu'eux, ils sont habitués à entendre notre accent français. Et puis à Barcelone, pareil, j'avais un peu peur que ce soit trop touristique, qu'il y ait vraiment trop de monde. Au final, je suis arrivée en février jusqu'à juin. Donc je trouve que cette période-là, c'était cool. Après, c'est vrai qu'à partir de juin, il y a beaucoup de monde. Donc là, ça peut être un peu étouffant quand même.
Et du coup, inversement, est-ce que tu as trouvé que les Québécois ou les Espagnols avaient des a priori sur la France ou les Français ?
Alors ça, oui. C'est quelque chose que j'ai remarqué un peu partout, que ce soit à Barcelone ou à Montréal. On a quand même cette réputation du Français qui débarque un peu arrogant, prétentieux. Qui croit tout connaître, alors que non, en fait, on est quand même dans une autre culture. Et c'est vrai qu'à Montréal, il y a quand même une immigration française qui est assez importante. Et à Montréal, il y a un peu cette blague du bobo français qui vient s'installer au plateau. Le plateau, c'est le quartier français de Montréal où vraiment on ne trouve que des Français. Et du coup, je sais que les Québécois font pas mal de blagues là-dessus.
Et est-ce qu'il y a des mots ou des formules en québécois et en espagnol qui ont été particulièrement utiles pour toi pendant ces voyages ?
À Montréal, il y a pas mal de mots qui sont différents. Dans le quotidien, par exemple, une voiture, ça va être un char. Une boisson, ça va être un breuvage. Moi, quand je travaillais en tant que serveuse, on parle pas d'un plateau, mais d'un cabaret. Donc ça, pareil, c'est un langage qu'au fur et à mesure, on adopte parce que tout le monde utilise ces mots-là. Aussi, quand on parle de ma copine, dans le sens amoureuse, c'est ma blonde. Et inversement, quand on parle de mon mec, c'est mon chum. Donc ça, pareil, très commun. Il fait froid, c'est... Quand il fait très très froid, c'est genre en dessous de moins 20 degrés, c'est il fait fret. Donc il y a une différence entre froid et fret. À Barcelone, les mots espagnols qui étaient très utiles, c'était cerveza, pour commander une bière. Sinon, je ne sais pas, par exemple, bolsas, una bolsa, un sac, quand on va faire ses courses. En catalan, si us plau, c'est s'il vous plaît, por favor. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup dit hablo un poquito espagnol.
D'accord. Et donc, est-ce que après cette expérience, tu voudrais refaire un séjour du même type dans un autre pays ?
Oui, j'aimerais beaucoup repartir. Là, cette année, je suis revenue en France parce que c'est vrai que après 3 ans à l'étranger, j'étais quand même souvent loin de ma famille, des amis et tout ça. Donc, ça me fait aussi du bien de revenir. Mais c'est vrai que pour le master, si j'ai l'occasion de refaire un semestre d'échange, je le ferai sans hésiter. Ou un stage aussi, ça peut être un stage à l'étranger.
Et pour finir, pour les auditeurs de Radio G qui voudraient partir dans un autre pays mais qui n'osent pas sauter le pas, est-ce que tu aurais un message ou des conseils à leur donner ?
Je dirais qu'il faut se faire confiance, que je sais que ça peut être très impressionnant de partir à l'étranger dans une ville où on n'a aucun repère, on n'a pas de connaissances, on ne connaît personne. Mais en fait, le temps fait les choses, la vie fait les choses. Par nos activités, bon, là, dans le cadre des études, on rencontre forcément des gens. Il y a aussi plein d'autres gens qui sont dans la même situation que nous et qui cherchent à se faire des amis. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et aussi, il ne faut pas se faire violence. Enfin, moi, je sais que je pouvais être un peu timide quand je ne connais pas les gens. On va à son rythme. Il ne faut pas non plus se forcer à aller à chaque soirée, chaque événement pour rencontrer du monde. On peut aussi prendre son temps et on finit forcément par rencontrer du monde naturellement. Aussi, moi, avant de partir à Montréal, vu que j'étais jeune, enfin j'avais 18 ans, il y avait pas mal de gens dans mon entourage qui étaient un peu réticents et qui me disaient « mais est-ce que t'es sûre ?» et qui remettaient un peu en doute tout ce projet-là. Et en vrai, c'est vrai que tous les bons conseils sont à prendre, mais il faut quand même faire le tri, je trouve, dans les réactions de nos proches, parce que en fait, il y a certaines personnes qui vont un peu transférer leur peur sur nous, alors qu'en vrai, chacun se fait sa propre expérience. Donc, il ne faut pas avoir des discours paralysants qui vont nous empêcher de partir. Et en vrai, si on parle toujours de nos peurs, on ne partira jamais. Et oui, et ce que je voulais aussi faire passer comme message, c'est que tout le monde peut partir à l'étranger. Ce n'est pas réservé à une partie de la population. Surtout, par exemple, avec les barrières de la langue. On peut arriver dans un pays et ne pas parler la langue. On va finir par réussir à communiquer avec les gens. Et encore une fois, on n'est pas tout seul dans cette situation-là. Et donc voilà, il faut essayer de ne pas trop se laisser freiner par nos doutes et nos peurs. Et que maintenant, il y a tellement d'opportunités pour aller à l'étranger. Je pense que c'est vraiment accessible à tout le monde.
Bien, merci beaucoup Rose d'avoir répondu à nos questions. On espère que ce témoignage donnera envie aux auditeurs de découvrir le Québec ou Barcelone ou de partir en études dans un autre pays que la France. On retrouve Rose dans notre prochaine émission pour nous faire découvrir son expérience en Corps européen de solidarité en Sardaigne et son voyage aussi grâce à Discovery You. L'Europe dans le micro, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site de Radio G.